le maître des Caraïbes, on a vraiment pris le chemin de la loufoquerie, mais parce que le fait divers en lui-même, il l'était. C'est-à-dire que, contrairement à la bibliomule de Cordoue, qui est quand même un sujet assez grave, on parle de la destruction d'une bibliothèque très importante par des fanatiques. Voilà, le sujet prêtait moins au délire, même si c'est assez drôle aussi, la bibliomule, on ne s'est pas interdit de se marrer dedans. Mais enfin, là, dans cette histoire de Maître des Caraïbes, il y a vraiment... C'est ridicule, quoi. Enfin, c'est tout le... Bon, déjà, le personnage de Joseph Dombey, il est assez ridicule en soi. C'était un type extrêmement poissard, extrêmement caractériel, une espèce de Louis de Funès un peu énervé, là, à qui il est arrivé plein de mésaventures dans sa vie. Donc, quand j'ai découvert que sur l'île de Montserrat, où se passe cette histoire, il y avait un animal étonnant qui s'appelait le poulet des montagnes. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait un complot pour que rien ne soit sérieux dans cette histoire, quoi. Donc en fait, je me suis dit, bon, allons-y franchement, cette histoire est loufoque et burlesque, donc on va respecter le sujet, et on va pas faire semblant de faire une bande dessinée historique un peu sérieuse et tout ça, on va y aller carrément. Et comme on n'a pas énormément d'informations, enfin on n'a pas du tout, sur ces pirates. La vie de Joseph Dombey est très sourcée. On sait à peu près tout ce qu'il a fait minute par minute, parce que d'abord, lui, il écrivait beaucoup, et puis il a fait l'objet d'études. Enfin, c'est finalement un botaniste de l'époque de Buffon qui est assez connu, finalement, dans le petit milieu de la botanique. Mais sur les pirates qui l'ont capturé, etc., par définition, on n'a pas d'infos. Donc, pour un scénariste, c'est un champ d'invention considérable, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait de l'histoire. Quand on fait de l'histoire, il n'y a souvent pas beaucoup de place pour le scénariste. Donc en fait, on peut très vite se sentir un peu à l'étroit. Mais là, c'était formidable, j'avais un terrain de jeu formidable. Ça ressemble au bonheur du scénariste. Bon, évidemment, on peut juste se laisser aller et fictionner dans la joie et l'allégresse, quoi. Mais en fait, moi, j'avais un autre projet qui était de permettre aussi une réflexion sur ce qu'amène ce genre de grand progrès scientifique. Et notamment cette communauté pirate, très bigarrée, très loufoque, ils incarnent dans la bande dessinée une sorte de contrepoint à Joseph Dombey. Joseph Dombey incarne l'esprit scientifique et rationnel hérité donc des Lumières et de la Révolution française. Mais cet esprit scientifique et rationnel, il s'est heurté à un mur qui est de la part d'irrationnel de l'homme. La Révolution française a dit la religion s'est terminée, les calendriers complètement byzantins basés sur la vie des saints, etc., c'est de la merde, les systèmes de mesure basés sur le pied du roi, le pouce du roi, le coude du roi, tout ça, poubelle, on va remplacer tout ça par quelque chose qui a un sens, qui est rationnel, qui est basé sur les connaissances, et en fait... Ça a partiellement marché. Bon, dans le cas du système métrique, ça a marché, mais par exemple, le calendrier révolutionnaire n'a jamais pris, et l'évacuation de la religion non plus, parce que l'être humain n'est pas que un être de raison. Il a sa part d'irrationnel, c'est un être narratif. Ce qui nous définit le plus par rapport aux animaux, etc., c'est qu'on se raconte des histoires et qu'on y croit. Et que, en fait, j'avais besoin de faire ressurgir ça. Je m'en amuse, je déconne et tout, mais c'est pas si déconnant que ça. C'est-à-dire que on est là au cœur de ce qui constitue l'être humain, c'est-à-dire cette dualité entre, d'un côté, la rationalité et ce besoin d'irréel et d'irrationnel, et voir même ce que Jean Locke, ce philosophe très alcoolisé au Rhum dans la bande dessinée, appelle carrément la poésie, puisque donc lui il dit en fait un monde livré aux scientifiques, c'est un monde dont on éradique complètement la poésie, et je ne veux pas faire partie de ce monde-là, ça ne m'intéresse pas en tant qu'être humain, parce que précisément être humain, c'est accepter la poésie du monde. Et du coup, voilà, au détour de cette galerie de personnages un peu cons, on peut un peu réfléchir à tout ça, quoi. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans cette histoire, c'est que cette avancée scientifique, le système métrique, c'est une vraie révolution scientifique à l'époque, c'est dingue. Bon, il y a plus de 800 systèmes de poids et de mesure à l'époque qui sont balayés par cet unique... Alors évidemment, À quoi voit-on une grande avancée scientifique? C'est qu'une fois que c'est là, on se dit, mais comment faisait-on avant? Enfin, c'est-à-dire, pourquoi on n'y a pas pensé avant? C'est juste tellement beau, c'est tellement limpide. Le mètre, le cube, le litre, tout ça interdépendant, sur une base de 10, tellement évident. Et avant, on fait n'importe quoi. La coudée, le boisseau, le panier, le tonneau, la perche, la livrée, le pied, le pouce, l'oreille. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi? Malgré tout, ça fait peur à une époque. On peut le comparer, par exemple, là où nous on est en plein dedans, là, l'intelligence artificielle. On vient nous présenter un monde rationnel. Demain, on est en train de remettre nos vies entre les mains de quelque chose qui, soi-disant, serait pure rationalité et donc ne serait pas en proie aux émotions et finalement ne serait pas humain. Et donc gérerait mieux la destinée humaine que nous, les humains. On flippe tous notre race de cette idée, quoi, quand même. On est en train de dire, mais est-ce qu'on est certain de ce projet, quoi? Parce que c'est. Bon, par contre, on se passe complètement de notre avis, c'est-à-dire que c'est en train d'arriver. Mais cette peur devant la révolution scientifique, on est en plein dedans. On la vit tous les jours, là. On ouvre les infos, là, on nous montre des vidéos, on n'est plus capable du tout de dire si la vidéo qu'on nous montre, elle est vraie, pas vraie, etc. On est passé vraiment dans la caverne de Platon, enfin, on est retourné dans la caverne de Platon. En plongeon ventral, tu vois. Donc en fait, pour moi, ce bouquin il est d'actualité, quoi, parce que c'est pas juste un truc d'histoire, c'est qu'en fait ça vient toucher un truc qu'on est en train de vivre et qu'on vit à intervalles réguliers dans l'histoire de l'humanité. C'est la définition originale du mot disruptif qui a été beaucoup galvaudé, notamment par Macron qui l'a foutu à toutes les sauces. Mais en gros, quelque chose de disruptif, c'est quand quelque chose apparaît dans la société et que la société n'a pas eu le temps de se doter d'un corpus de règles pour gérer ce fait nouveau. Typiquement, l'arrivée de la voiture, l'arrivée du téléphone portable. Quand la technologie est allée trop vite pour que la société s'organise. Il y a eu 20 ans entre l'invention de la voiture et l'invention du code de la route. C'est long, hein, 20 ans. Pendant 20 ans, il n'y avait pas de notion de je roule à gauche, je roule à droite, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de priorité à droite. Ça roulait. Et puis en plus, sur la route, tu avais encore des charrettes, des chevaux, des ânes et des gens avec des voitures. Et en fait, tout le monde roulait comme il pouvait, dans tous les sens. C'est une boucherie. Et encore, les voitures allaient à 20 à l'heure. Hein. Elles allaient à 20 à l'heure, c'était une boucherie. En tout cas, beaucoup d'estropiés, beaucoup de tout ça. Et au bout de 20 ans, la société s'est dit peut-être qu'il faudrait légiférer et tout ça, et faire en sorte qu'il y ait des règles. On est en train de le faire avec la téléphonie. La téléphonie mobile à 20 ans, un peu, ouais, à 20 ans, c'est-à-dire le premier iPhone, je crois, c'est 2005. En fait, tu te rends compte, c'est le même temps. Là, on est en train de se dire, ça serait peut-être bien que les enfants aient pas ça en main trop tôt, ça serait peut-être bien que les réseaux sociaux soient pas tous privés et appartiennent à des libertariens complètement tapés d'extrême droite. On est en train de se dire, on ne peut pas juste laisser tout ça se faire. Donc en fait, ce temps de la disruption, là, tu vois, il peut être assez long des fois. C'est 20 ans avant qu'on se réveille. Parce qu'un truc scientifique est arrivé tellement puissamment dans nos vies qu'on l'a utilisé. Et au bout d'un moment, on se dit, est-ce qu'on l'utilise bien? Ou est-ce qu'on a raison d'utiliser ce truc-là? Tu vois, mais c'est trop tard. On est dedans. Donc moi, c'est des sujets qui me passionnent, ça. Ouais. Précisément, ce qui m'intéresse en bande dessinée, c'est de le faire infuser dans quelque chose qui est, pour moi, la promesse un peu sacrée qu'il y a en bande dessinée entre un auteur et son lecteur, c'est-à-dire c'est une promesse d'évasion, de divertissement et de merveilleux, on va dire. On lit pas une bande dessinée. Enfin, moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui lisent une bande dessinée uniquement pour s'informer ou uniquement pour recevoir un cours magistral sur un sujet. Si tu veux tout savoir sur un sujet, tu ouvres Wikipédia ou tu lis des articles de presse ou un essai ou des trucs comme ça. Quand tu vas dans une bande dessinée, c'est que tu as envie quand même, à un moment donné, d'évasion, d'aventure, de divertissement, d'humour, de ce que tu veux. Mais enfin, tu as envie que cette tradition-là. Parce que la bande dessinée, c'est là-dessus qu'elle s'est construite, en fait. C'est le socle de notre art, pour moi, c'est ça, en fait. Et donc, je perds jamais ça de vue. Je perds jamais de vue ce que j'aimais lire, moi, quand j'étais gamin. Typiquement, pour moi, le Maître des Caraïbes, c'est dans la droite lignée des Tuniques Bleues, quoi. C'est-à-dire, j'adorais les Tuniques Bleues et j'apprenais tellement de trucs sur la guerre de Sécession et sur le fonctionnement des États-Unis. Et mine de rien, à 10 ans, tu sais qui est Custer et le général Lee et Bull Run. Et en fait, tu as appris tout ça sans le savoir parce que tu lisais les Tuniques Bleues, juste. Et en fait, ou Astérix, hein, on peut dire la même chose d'Astérix et du monde gallo-romain et de la façon dont fonctionnait l'Empire romain et tout ça. Bah, à 7-8 ans, tu intègres tout ça sans quasiment t'en rendre compte. Et c'est déjà super chouette, quoi, tu vois. Ou Alix, ou enfin, tu vois, on pourrait parler de tout ça. Et moi, je tiens à ça. Plus que tout, quoi. Je fais de la bande dessinée pour ça. Donc, le propos, la réflexion que je peux avoir sur le sujet que je traite, c'est très important pour moi qu'ils ne prennent pas le pas sur le divertissement, l'aventure, l'évasion.